9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1961, vous vous rappelez peut-être ce qui s'est passé, cet accident terrible qui a coûté la vie aux deux garçons d'André Malraux et Josette Clotis, Gauthier qui avait 20 ans et Vincent 18 ans. Malraux va continuer à exercer ses fonctions ministérielles, hein, il cache sa souffrance, il ne parle que de Gauthier d'ailleurs, jamais de Vincent, Vincent qui était au volant au moment de l'accident fatal. Et il se fâche avec sa fille Florence, à laquelle il reproche d'avoir signé le manifeste des 121. Et c'est devenu un homme politique, Malraux, qu'est-ce que vous voulez ? Madeleine et André Malraux vont déménager dans le parc de Versailles, à La Lanterne. Après qu'un attentat attribué à l'OAS a frappé leur maison de Boulogne, Malraux s'isole de plus en plus, il boit, il fume beaucoup, il demande à faire chambre à part. Et le couple qu'il formait avec Madeleine va se fissurer. En 1965, peu après son voyage en Chine, il renonce à Madeleine, qu'il ne veut plus voir à La Lanterne. Il est à l'époque dans les bras de Louise de Villemorin, comme je vous le raconterai dans quelques jours. C'est un amour de jeunesse, Louise de Villemorin, qu'il a retrouvé. Il s'installe d'ailleurs chez elle à Verrières-le-Buisson. Et il se lance dans l'écriture de ses anti-mémoires. Si l'écrivain Malraux renaît, la pianiste Madeleine renaît aussi. Le violoniste Isaac Stern l'invite à jouer à ses côtés à New York. C'est un événement quand elle se produit au Carnegie Hall. Elle va parcourir les États-Unis, faire une grande tournée à Philadelphie, Boston, Washington. Mais le moral, disons-le, n'est pas forcément là. Elle décide à ce moment-là de suivre une psychanalyse. Elle reçoit un coup de fil de Florence Malraux qui lui apprend l'hospitalisation d'André, hospitalisé d'urgence et qui va mourir des suites d'un cancer le 23 novembre 1976. Alors Madeleine finit par se détacher des États-Unis. Elle s'installera à Paris, boulevard de l'Isère. Sa carrière connaît dans les années 2000 un sursaut assez inattendu. Elle va se produire au Japon. Elle a plus de 90 ans à l'époque. Et c'est vrai que le nom de Malraux aide. C'est un peu un sésame, disons-le. Après tout, il a présenté la Joconde à Tokyo. Et ce sont surtout ces interprétations de Satie que l'on connaît et que l'on aime en France. Madeleine est sensible aux honneurs. Elle ne manque jamais les cérémonies du Mont Valérien. À sa mort en janvier 14, elle a 99 ans. Elle fait le don au musée de l'ordre de la libération du casque et du fusil de la brigade Alsace-Lorraine du colonel Berger. Le colonel Berger, bah, c'était André Malraux, bien entendu. Mais le cœur de cette femme qui a été délaissée par André Malraux dans les années 1960, son cœur est resté fidèle à Roland Malraux.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il faut que je vous dise que cette jeune pianiste s'était inscrite vraiment enfant au conservatoire de Toulouse. Elle est la plus jeune, la plus douée des élèves de ce conservatoire. Il faut vous dire qu'elle est gauchère. À l'époque, ce n'est pas considéré comme un avantage, bien sûr. Les jeunes années sont solitaires et austères, nous dit sa biographe Aude Terray, dominée par le sentiment de ne pas mériter la réputation de prodige et la crainte de décevoir. En 28, elle a 14 ans à l'époque, elle est premier prix au conservatoire, et c'est un fait sans précédent à cet âge-là. Le directeur convoque ses parents et il leur dit qu'il faut absolument qu'elle aille au conservatoire de Paris, il faut l'inscrire là-bas. Madeleine va vivre seule à Asnières. Elle s'adapte à son nouveau professeur qui n'est autre que la plus célèbre pianiste de l'époque, bien sûr, hein, Marguerite Long, avec ses fourrures, ses boas, vous savez. Marguerite Long, adepte de la méthode française qui donne la priorité à l'articulation des doigts, à une position haute sur le clavier, rien à voir avec la méthode russe qui joue davantage sur la paume de la main et à laquelle a été formée Madeleine. Les professeurs sont plus sévères à Paris qu'à Toulouse, les élèves doivent obéir, la concurrence est beaucoup plus rude. Bref, Madeleine s'emploie à cacher son accent, à faire face. La petite Liou, comme on l'appelle, oui, c'est son nom de famille. Elle rentre à Toulouse, elle se voit confier une classe de piano au conservatoire et se plaint du niveau très amateur des élèves, dont certains ont à peu près son âge. La jeune fille courtisée n'est pourtant pas la plus belle à Toulouse, nous dit Aude Terray. Très brune, de taille moyenne et menue, les traits fins, ce sont ses yeux brillants et pénétrants, sa présence alliée à une certaine réserve qui séduisent. Elle n'éblouit pas, elle charme. La guerre est déclarée, 1er septembre 1939, Toulouse est en zone libre et ça devient la plaque tournante de ceux qui veulent essayer de regagner l'Espagne, qui cherchent des faux papiers, etc. Madeleine et sa famille apportent leur assistance à un certain nombre d'artistes en détresse, notamment un peintre juif, Théodore Fried, ou le pianiste Lazare Lévy, qui est réfugié avec sa famille à Toulouse. Madeleine continue à enseigner au conservatoire, mais les élèves juifs ont disparu, évidemment. En février 1942, elle va faire, au cours d'un dîner, la rencontre d'un certain Roland Malraux. Et on lui dit « Mais vous savez que ce Roland, c'est le frère d'André Malraux. » C'est Madeleine Malraux qui interprétait ce tango de Stravinsky.
Vous écoutez Radio Classique.
Ce Roland Malraux, c'est le frère d'André. Il est né en 1912, Roland, et la vérité, c'est qu'il est d'abord enfant naturel. À l'état civil, à l'époque, il porte le patronyme de sa mère, Godard. Son père, Fernand, est une espèce de flambeur, de séducteur, dont on a déjà eu l'occasion de parler ici. Il s'est marié d'ailleurs avec une autre femme, avec Berthe Lamy, dont il a eu un fils en 1901, André. Ce couple-là s'est séparé en 1905 et vous savez que Berthe est allée vivre avec son fils à Bondy, chez sa mère. En 1915, Fernand va se rendre néanmoins à la mairie pour reconnaître Roland. Il affirme être célibataire parce qu'à l'époque, la loi interdit à un homme marié de se déclarer père d'un enfant adultérin. Bon. Mais ça permet quand même une reconnaissance de Roland et puis... Et puis Fernand, après la crise de 1929, finira par se suicider et ses fils renonceront à l'héritage tellement il y a de dettes. À l'époque, Roland aura 18 ans et il n'aura fait la connaissance de son frère André que quelques années plus tôt, en 1922, c'est-à-dire qu'il l'a connu très tard dans sa vie. Et évidemment, il est admiratif, Roland. Il lit les premiers romans de son frère admiré. La mort du père les a rapprochés. Et Roland a obtenu à ce moment-là son baccalauréat. Vous savez qu'André Malraux, lui, n'a jamais passé, il n'a même pas présenté le baccalauréat. Roland est doué pour les langues. Il va se rendre en Allemagne, se passionner pour la politique. Il veut devenir journaliste. Il est passionné par ce qui se passe à l'époque en Allemagne, c'est-à-dire la montée du nazisme, évidemment. Et par l'entremise d'André, il est engagé à son retour par André Gide comme secrétaire. Ce qui veut dire qu'il va notamment traduire le courrier d'André Gide, la presse anglaise et allemande. Il observe rue Vaneau les habitudes de vieux garçon de ce très célèbre écrivain. Son activité s'apparente autant à celle d'un homme à tout faire, disons-le, presque un valet de chambre. En tout cas, autant valet de chambre que secrétaire. Il se coltine au milieu du cinéma également. Il devient l'assistant de Marc Allégret en 1934 sur le tournage du Lac aux Dames. Bref, il est dans le Paris qui compte des années 1930, Roland, avec son physique de jeune premier qui suscite bien des passions féminines, aussi quelques approches masculines d'ailleurs. Selon Madeleine, je la cite, « Roland était un garçon expansif qui avait de l'esprit, qui s'exprimait avec une grande facilité. Il était peut-être plus léger que son frère, mais il n'était pas superficiel, il était profond, sensible. C'était sa façon à lui d'être gentleman. » On sent tout l'amour dans ses propos. Alors évidemment, chez les parents Lioux, on s'inquiète de cette passion pour un des frères Malraux. On connaît l'engagement très à gauche d'André Malraux, bien entendu. Ça inquiète la bourgeoisie provinciale. Les amants vont partir, quand je dis les amants, c'est Roland et Madeleine. Ils vont partir quelques jours, dès qu'ils le peuvent. Elle a 28 ans, Madeleine, et elle est passionnément amoureuse. De son côté, André Malraux a une maîtresse, Josette Clotis, qui va donner naissance à un fils, Gauthier. Roland décide, sur les instances de Josette, de se déclarer comme père officiel parce qu'à ce moment-là, André est prisonnier des Allemands, il est à Sens. Et c'est donc une fausse déclaration que fait Roland Malraux, passible de lourdes peines. Ça rend légalement Roland responsable à vie de l'enfant. Et Madeleine admire beaucoup le panache et le courage de celui qu'elle aime tellement. Elle va faire la connaissance d'André, elle, en 1942. « Que lisez-vous ? » lui dit André Malraux. « Connaissez-vous Apollinaire ? Aimez-vous Darius Milhaud ?» Et la jeune femme ne montre pas de surprise. Elle répond calmement, avant de sortir de son sac un exemplaire de la condition humaine. Elle fait dédicacer ça à André. En fait, elle ne l'aime pas, ce roman qui a eu le prix Goncourt en 1933, est beaucoup trop tourné vers l'action pour elle, trop emphatique, mais elle ne le dira jamais à André. Roland, entre-temps, va faire sa demande en mariage. Et les fiancés ne veulent pas de cérémonie religieuse, seulement un mariage civil dans la plus stricte intimité. On fait comprendre aux parents Liu que leur présence n'est pas vraiment indispensable, et donc Madeleine devient Madame Roland Malraux. Roland, qui s'est engagé dans la résistance entre-temps, sous couvert d'attaché de préfecture, Madeleine a bien compris, hein, les indices ne manquent pas. Tous ces rendez-vous mystérieux, ces silences, les déplacements bizarres de Roland dans Paris. À propos de son frère André, Roland confie à Madeleine « Il a du génie, mais il est bien décevant. » Bien décevant, il fait allusion aux hésitations d'André Malraux à l'égard de la résistance, justement. Madeleine partage son temps entre Toulouse et Paris. Du lundi après-midi au jeudi soir, elle est à Toulouse pour ses cours au conservatoire. Et puis, elle rentre pour les grands week-ends à Paris avec Roland. Et en attendant, la Gestapo traque les résistants. Bien entendu, il faut quitter Paris. Roland doit se cacher. On les voit s'embrasser une dernière fois à Brive, où Roland a un rendez-vous important. Il dit à Madeleine, dans les yeux, elle est en train de prendre son train pour Toulouse, « Faites attention à vous, soyez prudente. Gardez sur vous votre carte d'identité de jeune fille et cachez l'autre. Dès que je le peux, je vous fais signe. Mais je vais devoir me faire discret un certain temps. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Tout n'ira pas bien, puisqu'ils ne se reverront jamais. Roland va être victime d'un guet-apens, il sera torturé, puis déporté à Neuengamme en Allemagne. Et le 11 juin 1944, Madeleine donnera naissance à son fils Alain, le prénom que Roland avait choisi en hommage au philosophe. Et Madeleine, avec son fils, attend le père de son fils, parce qu'elle ne sait pas, elle, qu'il a été arrêté, qu'il a été torturé et déporté. Elle vit une vie qui est celle de toutes ces femmes, épouses de prisonniers et de déportés, vie d'attente, vie d'espoir. Elle espère qu'il va revenir, Roland, qu'il verra l'enfant qu'elle a mis au monde. Entre-temps, André lui confie le deuxième enfant de Josette Clotis, qui est morte tragiquement sous un train à ce moment-là. L'enfant s'appelle Vincent. André n'a jamais voulu cet enfant-là et Madeleine va l'adopter, elle, immédiatement. André accompagne sa belle-sœur au concert de la Pléiade organisé par Gallimard. En novembre 1945, c'est au tour de Madeleine de se produire dans ses concerts. André a tout fait pour qu'il en soit ainsi. Elle a repris sa carrière de concertiste. Elle est heureuse de son succès. Elle ignore qu'elle ne se produira plus en public après cette fameuse soirée. Madeleine ne perd pas espoir. Chaque jour, elle se rend à l'hôtel Lutetia pour voir les prisonniers qui rentrent, parce que ça y est, la guerre est finie et que on est obligé de scruter des visages parfois méconnaissables de tous ceux qui arrivent par trains entiers. Et puis, c'est une infirmière qui va lui confirmer la mort de Roland le 3 mai 1945, 5 jours avant la capitulation de l'Allemagne. Roland a été tué lors du bombardement allié du paquebot Cap Arcona. C'était un paquebot qui se trouvait au large de Lübeck et la Royal Air Force l'a bombardé. Et il est mort et Madeleine voit à jamais s'envoler l'amour de sa vie. la deuxième des études, opus 8 de Scriabine, par Madeleine Malraux.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Roland est mort, et c'est son frère, c'est André, qui va proposer à Madeleine de venir s'installer avec lui dans un hôtel particulier à Boulogne. Malraux, cerné littéralement par les ombres, par Josette, par Drieux-La Rochelle aussi, par ses demi-frères Roland et Claude qui sont morts en héros. Il cherche à honorer sa dette en recueillant sa famille dispersée. Il ne peut pas se passer d'une femme à demeure et c'est Madeleine qui va devenir en quelque sorte la maîtresse de maison. Il faut lire l'ouvrage d'Alain Malraux qui s'appelle « Les marronniers de Boulogne » et qui raconte évidemment tout ça. C'est assez passionnant. Je salue Alain Malraux au passage, je sais que c'est un de nos très fidèles auditeurs. Madeleine est la maîtresse de maison, mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas son mot à dire dans le décor. C'est une espèce de musée imaginaire à la Malraux, cet hôtel particulier de Boulogne, musée où se mêlent l'Asie, l'Espagne, Venise. Elle aime à citer la phrase de l'ironique Clara « André a beaucoup de goût, mais mauvais ». Et c'est un peu ce qu'elle pense, elle aussi. « J'ai rencontré l'incarnation de la France !» s'exclame Malraux après sa première entrevue avec le général de Gaulle. Et vous savez qu'il va, dès novembre 1945, écoper du ministère de l'Information, sauf que de Gaulle donne sa démission. Malraux rentre à la maison, il veut faire un livre sur l'art qu'il va composer en étalant les photos sur le sol dans un nuage de cigarettes. C'est pas très facile de vivre avec un génie. La vie de Madeleine est bouleversée par la présence de Malraux. Elle hésite à travailler son piano, il faudrait pas le déranger, au cas où il aurait une phrase qui lui viendrait là. Malraux est par ailleurs un être qui peut se montrer charmeur et très délicat. Il est tout à fait sensible à la présence de Madeleine dans ses murs. Il apprécie beaucoup sa conversation. Elle sait écouter. Elle n'intervient qu'à bon escient et il admire sa résistance dans la tragédie. Pas une larme, pas une plainte. D'où ce basculement amoureux de Malraux, intrigué par le seul art qui jusqu'alors lui est d'une certaine façon résisté, la musique. Or, la musique, Madeleine a su l'apprivoiser. André veut tous ses enfants sous son toit, mais on ne peut pas dire qu'il leur manifeste beaucoup d'intérêt. Le matin, il leur lance « Bonjour les enfants !» Il ne veut pas être dérangé et à plusieurs reprises, il leur dit « N'encombrez pas, n'encombrez pas !» Et avec des silences pesants chez Malraux, bien sûr. Trois enfants et trois histoires très différentes. Deux Malraux, dont un par fausse déclaration, un Clotis de père inconnu, une tante et un oncle qu'on appelle « papa » et maman, et qui forment un couple, mais qui n'est pas encore un couple officiel. Vous voyez l'extraordinaire complexité de cette famille recomposée. Situation un peu intenable. Vous savez que l'épouse du général, Yvonne de Gaulle, tient aux convenances. André et Madeleine vont devoir se marier civilement. Mariage qui a lieu le 13 mars 1948, en Alsace, dans la plus stricte intimité, et en présence des camarades, de ceux qui ont accompagné Malraux dans la brigade Alsace-Lorraine.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Alors, ce n'est plus le clavier du piano auquel est arrimée Madeleine, mais bien celui de la machine à écrire. Elle tape les manuscrits d'André. Il faut par ailleurs gérer tous les problèmes avec les enfants. Gauthier, jaloux d'Alain, qui considère Madeleine comme une étrangère. Le plus révolté, c'est Vincent, qui est beau, qui fait 1m92, mais que son père rejette. Le couple ne se prête pas beaucoup aux mondanités. Malraux, qui aurait voulu le prix Nobel, mais vous savez que les jurys Nobel ont préféré Albert Camus en 1957, ne cache pas son ressentiment. Il écarte l'Académie française, il y a trop de gens là-dedans qu'il ne veut pas voir. Et puis, il est déçu par le ministère de l'Information que de Gaulle va confier en 58 à celui qui aurait voulu autre chose, qui aurait voulu Matignon ou au moins les affaires étrangères. Et en guise de compensation, le général l'envoie en mission à l'étranger, ce qui veut dire que le couple va beaucoup voyager. Madeleine, sur les photos, a l'air toujours très, très sage. C'est peut-être son désir de plaire à André, de ne pas faire de bruit d'une certaine manière. Voici ce que nous dit Aude Terray. Les cheveux en carré courts, un petit collier de perles et sa broche assyrienne, cadeau d'André pour tout bijou. Ses robes et des tailleurs de coupe classique, jamais de couleur, mais du noir, du bleu marine, du crème, la discrétion même. André, c'est le contraire de Roland, qui était naturel, drôle. Madeleine se dit que maintenant, il faut vivre avec un génie. Sa personnalité m'intéressait comme icône. Dans ce sens, il était attachant, il était spécial, original et pittoresque, dira-t-elle. sa confiance en elle la touche, puisqu'il veut toujours qu'elle soit là, hein, à côté de lui, dans ses déplacements officiels. Madeleine est émue par Malraux quand il l'appelle « ma régularité ». L'unique portrait de Roland, et il est important ce portrait, il est dans la chambre d'Alain. Les photographies, elles, ont été bien soigneusement enfermées dans les tiroirs du secrétaire vénitien. Alain tente parfois des questions sur celui qu'il appelle « papa Roland ». Quand il dit « papa tout court », c'est André, mais « papa Roland ». Ouf, Madeleine ne veut pas l'étouffer sous le souvenir de ce père disparu. Elle ne veut pas lui raconter sa fin tragique, mais tout de même, elle entretient la flamme. Et à partir de 8 ans, Alain assistera aux commémorations du Mont-Valérien. Il est toujours entouré d'André et de Madeleine, bien sûr, mais ce qu'il porte à la boutonnière, c'est la médaille de son père.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Jérémy Bigori et un grand salut à Alain Malraux, dont le dernier ouvrage, notamment « Au passage des grelots », ça s'appelle, raconte toute cette histoire. Alain est le fils de Madeleine et je le salue avec beaucoup d'amitié. Bonjour mon cher Christian.
Bonjour.
Mais je vois que vous êtes
Franck.
Bonne lecture vous ce matin.
Oui, je voudrais vous parler d'Historia. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons un hors-série Historia qui fera partie des cadeaux du Trio Classique. C'est celui qui est consacré à Aliénor d'Aquitaine. Oui. Mais je voudrais vous parler de celui du mois de novembre qui sort aujourd'hui. Consacré en partie au dernier âge d'or des gladiateurs.
Et oui, les gladiateurs, c'est le film là qui va sortir, hein, le film événement de cette fin d'année. Alors, nous nous sommes penchés avec Eric Tessier dans le détail sur tout ce qu'on peut dire de ces derniers gladiateurs d'une certaine manière. Mais il y a aussi un gros dossier dans ce numéro d'Historia, un gros dossier sur le climat.
Tout
On essaie
fait.
De comprendre à travers les siècles, à travers toutes sortes d'événements, de catastrophes naturelles, etc., ce que l'histoire nous apprend du climat et de tout ce qui nous arrive. Et puis on parle aussi de la préhistoire avec
Lucie, cette chère
voilà,
Lucie.
Etc.
Franck, je vous souhaite un bon week-end, bonne Toussaint, et puis on se retrouve dès lundi, évidemment.